Mesmo se c'est écrit, car il y a une région au-dessus du mental et derrière lui un pouvoir plus original et dynamique qui soutient le mental, le voit comme un rayonnement diminué de lui-même, s'en sert comme d'une couche de transmission vers le bas, ou comme instrument pour la création de l'ignorance.
Je ne suis pas absolument sûr de ma traduction. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas dans la création. Je crois que c'est dans la création. Dans la création, l'ignorance, il sert d'instrument à la lumière suprême. En le lisant, j'ai eu la même impression. Que ce n'était pas pour, que c'est dans. Il y a la création de l'ignorance et alors lui servirait d'intermédiaire pour transmettre la force, la lumière de vérité dans cette création, qui est la création de l'ignorance. Ça ne veut pas dire pour créer le monde de l'ignorance. C'est pas ça.
Mais après ça, il y a la dernière étape de l'ascension serait de surpasser cette région elle-même, au-dessus du mental, ou bien de retourner à sa propre origine plus grande encore. Je n'ai pas compris cette...
Il y a deux étapes, n'est-ce pas? On peut, au-delà du mental, entrer dans une région, et puis, par-delà cette région-là, il y en a encore une autre qui est l'origine de toute chose. Ça veut dire deux étapes successives.
Non, après ça, c'est ou bien de retourner à sa propre origine. Quelle est sa propre origine? Parce que c'est écrit sa propre origine plus grande encore.
Oui, l'origine de toute chose. Quand je lisais ça, hein, ce soir, j'avais l'impression que je voudrais refaire cette traduction. Je ne la trouve pas satisfaisante. Il faudrait la refaire. C'est compris dans le livre... en yoga. Il faudrait qu'on reprenne ça. Il faudrait qu'on reprenne ça pour le traduire. C'est la synthèse du yoga, c'est inclus dans le livre en yoga. Et il faudrait reprendre ça et le retraduire. C'est pas une bonne traduction. Quand nous aurons fini la vie divine, nous prendrons. Et alors vous serez tous assez... Mais eux, ils sont déjà là. Il y en a déjà quatre qui sont là. Les autres aussi devraient venir. On comprend beaucoup mieux quand on suit la traduction. Il faudrait que ce soit retraite.
Maintenant que le supramental est descendu, pourquoi on ne peut pas passer de la mentale rationnelle à la supramentale? Directement.
Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Il y a la description ici de ce qui était à faire pour pouvoir entrer en contact avec le supramental et préparer le terrain de sa manifestation. Mais maintenant que il est entré dans l'atmosphère terrestre, je ne vois pas pourquoi un procédé précis et unique lui serait infligé dans sa manifestation. S'il lui plaît d'illuminer directement un instrument qu'il trouve commode ou prêt, adapté, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Et je répète, qui est-ce qui a dit que ça ne pouvait pas être autrement? Personne. Ce que Sri Aurobindo a décrit, c'est autre chose, et c'est en effet ce qui s'est produit. C'était la préparation nécessaire pour que la manifestation ait lieu. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi et sur quelle base il serait imposé à l'action supramentale un processus particulier et qu'il n'aurait pas la liberté de choisir ses propres moyens. Je pense que toutes les possibilités sont prévisibles et que toute aspiration sincère et consécration totale aura une réponse et que les procédés, les moyens, les transitions, les transformations seront innombrables dans leur nature. Pas du tout que les choses se feront d'une certaine manière et pas autrement. Au fond, quoi que ce soit qui soit prêt à recevoir même une parcelle ou un aspect particulier de la conscience et de la lumière supramentale doit automatiquement le recevoir. Et les effets de cette conscience et de cette lumière seront innombrables parce que certainement ils s'adapteront à la possibilité, à la capacité de chacun selon la sincérité de son aspiration. Plus la consécration est totale et l'aspiration est intense, plus le résultat peut être intégral et intense. Mais l'effet de l'action supramentale sera innombrable dans ses manifestations, multiple, innombrable, infiniment varié, pas forcément suivant une ligne précise et la même pour tous. C'est impossible, parce que c'est contraire à la nature même de la conscience supramentale. La qualité même de l'atmosphère est changée. Les conséquences doivent être infiniment variées, mais perceptibles. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui, à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière, va devenir tout d'un coup un génie supramental. Hein. Faut pas s'y attendre. Bye. j'allais dire, si seulement on constate qu'on est un peu moins bête qu'avant, ce sera déjà quelque chose. Pourquoi vous voulez lui interdire un domaine ou un autre?
Parce que ce qui est là est encore ce que chacun le dit, la douleur provoquée des intellectuels.
Hein?
Le système d'éducation,
oui,
que nous suivons encore, c'est dans le même domaine.
Vous parlez de l'éducation que vous donnez à vos élèves? Oui, mais il y a un beau temps que ça aurait dû changer. On a une lamentable habitude de copier ce qui a été fait auparavant et ce qui est fait par les autres. Il y a longtemps que j'ai dit ça. Cet argument, il faut faire ça parce que c'est cela qui est fait partout. Moi, je réponds, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas le faire. Parce que si tous les autres le font, à quoi ça sert qu'on le fasse aussi? Mais ça, c'est... Mais pourquoi me demandez-vous ça? Vous devriez d'abord changer votre système d'éducation selon les principes du supramental. Au moins essayer. Il va demander, il faut le faire. Si vous allez toujours dans la même ornière, vous pouvez aller dans l'ornière indéfiniment. Il faut tâcher d'en sortir. Justement, je suis en constante discussion à ce sujet-là. Je pense que c'est aujourd'hui même, ou peut-être hier. Que je plaidais le droit de chacun de demeurer dans l'ignorance si ça lui plaît. Je ne parle pas de l'ignorance selon la notion spirituelle. Le monde d'ignorance dans lequel nous sommes. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'ignorance selon les notions d'éducation classique. Eh bien, je dis que s'il y a des êtres qui ne veulent pas apprendre, et qui n'aiment pas apprendre, ils ont le droit de ne pas apprendre. La seule chose qu'on a le devoir de leur dire, c'est maintenant, vous avez l'âge où votre cerveau est en train de se préparer. Il se construit. chaque nouvelle chose que vous étudiez, ça fait une petite circonvolution de plus dans votre cerveau. Plus vous étudiez, plus vous pensez, plus vous réfléchissez, plus vous travaillez, plus votre cerveau devient complexe et complet dans ces petites circonvolutions. Et comme vous êtes jeune, c'est le moment où ça se fait le mieux. C'est pour ça qu'il est dans l'habitude humaine de choisir l'âge de la jeunesse pour apprendre, parce que c'est infiniment plus facile. Et il est évident que jusqu'à ce que l'enfant puisse être un tout petit peu conscient de lui-même, il faut le soumettre à une certaine règle parce qu'il n'a pas encore la capacité de choisir pour lui-même. Cet âge-là est très plastique, ça dépend des gens, ça dépend de chaque individu. Mais enfin, il est entendu que dans la période des 7 ans qui s'entend depuis 7 jusqu'à 14, on commence à toucher à l'âge de la raison. Si on est aidé, on peut devenir un être raisonnable à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. Avant 7 ans, il y a des génies, il y a toujours des génies partout, mais la règle générale, c'est que l'enfant n'est pas conscient de lui-même et qu'il ne sait pas ni pourquoi ni comment faire les choses. Et c'est le moment où il faut lui donner une petite base suffisante pour qu'il ne soit pas tout à fait comme un petit animal, qu'il appartienne à la race humaine par un développement intellectuel primaire. Après ça, il y a une période de 7 années dans laquelle il faut lui apprendre à choisir. Choisir ce qu'il veut être. S'il veut choisir d'avoir un cerveau riche, complexe, développé, puissant dans son fonctionnement, eh bien, il faudra lui apprendre à travailler. Parce que c'est par le travail, par la réflexion, par l'étude, par l'analyse et tout ce qui s'ensuit que on se forme un cerveau. À 14 ans, vous êtes prêt, ou vous devez être prêt, pour savoir ce que vous voulez être. Et alors je dis, si à peu près vers cet âge-là, il y a des enfants qui catégoriquement disent « Tout développement intellectuel ne m'intéresse pas du tout, je ne veux pas apprendre, je veux rester ignorant à la manière ordinaire de l'ignorant », je ne vois pas quel droit on a d'imposer ça aux gens et de vouloir les niveler. Il y a ceux qui sont en bas, il y a ceux qui sont à un autre étage, il y a ceux qui sont... Il y a des gens qui peuvent avoir des capacités très remarquables et qui n'ont pas de goût pour le développement intellectuel. On peut les prévenir que s'ils ne travaillent pas, s'ils n'étudient pas, eh bien quand ils seront grands, ils se trouveront peut-être embarrassés vis-à-vis du reste de l'humanité, mais si ça leur est égal et s'ils veulent vivre d'une vie qui n'est pas intellectuelle, je considère qu'on n'a pas le droit de les obliger. Ça, c'est ma querelle constante avec tous les professeurs de l'école. Ils viennent me dire, s'ils ne travaillent pas, eh bien, quand ils seront grands, ils seront bêtes et ignorants. J'ai dit, mais si ça leur plaît d'être bêtes et ignorants, de quel droit intervenez-vous? On ne peut pas avoir la connaissance et l'intelligence obligatoire. C'est tout. Maintenant, quant à croire qu'en vous abstenant de tout effort et de toute étude, vous deviendrez des génies et des génies supramentaux, ça, ne vous faites aucune illusion, ça ne vous arrivera pas. Parce que même si vous touchez à une lumière supérieure, par une aspiration intérieure ou par une grâce divine, vous n'aurez rien là-dedans pour pouvoir l'exprimer. Alors ça restera dans un état tout à fait nébuleux et ça ne touchera en rien à votre existence extérieure. Mais, si ça vous plaît d'être comme ça, personne n'a le droit de vous obliger d'être autrement. Il faut attendre que vous ayez suffisamment de conscience pour pouvoir choisir. Évidemment, il y a des gens qui, à 14 ans, sont encore comme un enfant de 5 ans, mais ceux-là, alors, c'est sans beaucoup d'espoir. Surtout ceux qui ont vécu ici. Alors, ça change déjà totalement votre point de vue instructif. Au fond, la seule chose que vous devriez faire avec assiduité, c'est de leur apprendre à se connaître eux-mêmes et à choisir leur propre destin. Le chemin qu'ils suivront. Apprendre à se regarder, à se comprendre et à se vouloir. C'est infiniment plus important que de leur apprendre ce qui s'est passé sur la terre auparavant. Parce que, ou bien même comment la terre est bâtie, ou même enfin toutes sortes de choses qui sont un fondement assez nécessaire si vous voulez vivre de la vie ordinaire dans le monde, parce que si vous ne savez pas ces choses, eh bien immédiatement n'importe qui vous battra intellectuellement avec le « oh, c'est un idiot, il ne sait rien ». Mais enfin, vous pouvez aussi, à n'importe quel âge, si vous êtes studieux et que vous avez de la volonté, vous pouvez prendre des livres et travailler, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour ça. Si vous voulez apprendre quelque chose, il y a assez de livres dans le monde pour vous les apprendre si vous voulez étudier. Il y a même beaucoup plus de livres qu'il n'est nécessaire. Mais enfin, vous pouvez épuiser tous les sujets simplement en allant là-bas chez Medananda dans sa bibliothèque. Vous en aurez assez pour en avoir jusque-là. Mais ce qui est très important, c'est de savoir ce que vous voulez. Et pour ça, il faut un minimum de liberté. Il ne faut pas être sous une compulsion ou une obligation. Il faut que vous puissiez faire les choses de bon cœur. Si vous êtes paresseux, eh bien vous saurez ce que ça veut dire d'être paresseux. Vous savez, dans la vie, les paresseux, ils sont obligés de travailler 10 fois plus que les autres. Parce que ce qu'ils font, ils le font mal. Alors ils sont obligés de le refaire. Mais ce sont des choses qu'il faut apprendre par expérience. On ne peut pas vous inculquer l'esprit. Si on ne le tient pas, c'est quelque chose de flottant, d'imprécis. Si on n'a pas l'habitude de le concentrer sur quelque chose, il est tout le temps à flotter. Il ne s'arrête nulle part et il flotte dans un monde d'imprécision. Et alors quand on veut fixer son attention, ça fait mal. Il y a un petit effort là, comme ça. Oh, c'est fatigant. Ça fait mal. Alors, on ne le fait pas. Et on vit dans une sorte de nuage, et vous avez dans la tête, c'est comme ça. La plupart des cerveaux sont comme des nuages. Ça n'a pas de précision, ça n'a pas d'exactitude, ça n'a pas de clarté. C'est fumeux, vague et fumeux. Vous avez plus des impressions qu'une connaissance des choses. Ça, vous vivez dans une approximation et vous pouvez garder au-dedans de vous toutes sortes d'idées contradictoires qui sont faites surtout d'impressions, de sensations, de sentiments, d'émotions, de toutes sortes de choses comme ça qui ont très peu à faire avec la pensée et qui sont des vagueries. Mais si vous voulez arriver à avoir une pensée précise, concrète, claire, déterminée sur un point, il vous faut faire un effort. Vous rassemblez, vous fixez, vous concentrez. Et les premières fois que vous faites ça, littéralement, ça fait mal. C'est si fatigant. Et si vous n'en prenez pas l'habitude, alors vous resterez toute votre vie à vivre dans un flottement comme ça. Et quand il s'agira de choses pratiques, que vous serez en présence, parce que malgré tout, on est toujours en présence d'un nombre plus ou moins grand de problèmes à résoudre, d'un ordre tout à fait pratique, eh bien, vous êtes en présence, au lieu de pouvoir prendre les éléments du problème, les mettre tous l'un en face de l'autre, regarder à la question de tous les côtés, vous vous levez au-dessus et puis voir la solution. Au lieu de ça, vous serez ballotté dans des volutes de quelque chose de gris et d'incertain et ça sera comme autant d'araignées qui courront dans votre tête, mais vous n'arriverez pas à saisir la chose. Je parle du problème le plus simple. Je ne parle pas de décider du sort du monde ou de l'humanité ou même d'un pays ou de rien. Tout ça, je parle du problème de votre vie quotidienne de chaque jour. Ça devient quelque chose de tout à fait cotonneux. Eh bien, c'est pour éviter ça qu'on vous dit, quand votre cerveau est en train de se former, au lieu de se laisser se former avec ses habitudes et cette qualité-là, tâchez de lui donner un peu d'exactitude, de précision, de capacité de se concentrer, de choisir, de décider, de mettre les choses en face les unes des autres, d'utiliser la raison. Parce qu'il est bien entendu que la raison n'est pas la capacité suprême de l'homme et qu'elle doit être surpassée, mais il est de toute évidence que si vous n'en avez pas, vous vivrez une vie tout à fait incohérente. Vous ne saurez même pas vous conduire d'une façon rationnelle. La moindre chose vous bouleversera totalement et vous ne saurez même pas pourquoi et encore moins comment y remédier. Tandis que quelqu'un qui a établi en lui un état de raison active, claire, eh bien il peut faire face à un des assauts de tout genre, des assauts émotifs ou des assauts d'épreuves quelconques, parce que la vie est entièrement faite de ces choses-là. On peut des désagréments ou toutes sortes de choses qui sont toutes petites, mais qui sont à la mesure de celui qui les sent et qui naturellement les sent très grandes parce qu'elles sont à sa mesure. Eh bien, la raison peut se tenir un peu en arrière, regarder ça, sourire et dire « Oh non, il ne faut pas faire des embarras avec une toute petite chose. » Si vous n'avez pas de raison, vous serez comme un bouchon sur une mer démontée. Je ne sais pas si le bouchon souffre de sa condition, mais elle ne paraît pas très avantageux. Maintenant, après avoir dit tout ça, et je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit, je pense, plusieurs fois, et je suis prête à vous le redire autant de fois que vous voulez, après vous avoir dit ça, eh bien, je tiens à vous laisser entièrement libre de choisir si vous voulez être le bouchon sur la mer démontée ou si vous voulez avoir une perception claire, précise et une connaissance suffisante des choses pour pouvoir marcher bien simplement là où vous voulez aller. Parce qu'il y a une clarté indispensable pour pouvoir même suivre le chemin qu'on a choisi. Je ne tiens pas du tout à ce que vous deveniez des érudits. Il s'en faut de beaucoup. Parce qu'alors, on va dans l'autre extrême, on se remplit la tête de tant de choses qu'il n'y a pas de place pour de la lumière supérieure. Mais il y a un minimum qui est indispensable pour ne pas, même pour ne pas être le bouchon.
On dit que le manque général, notre manque général dans l'étude, c'est à cause de trop d'insistance sur l'éducation, sur les jeux, sur l'éducation physique. Est-ce qu'il y a une vraie différence?
Qui est-ce qui dit ça? Les gens qui n'aiment pas l'éducation physique. Qui est-ce qui dit ça? Des vieux professeurs racornis, non? Qui ne peuvent plus peuvent plus faire d'exercice. C'est ça? Je ne demande pas de nom. Eh bien, je ne le crois pas. Vous vous souvenez du premier article que Sri Aurobindo a écrit dans le bulletin? Vous vous souvenez? Eh bien, il répond à ces gens-là d'une façon tout à fait catégorique. Je ne pense pas que ce soit ça. Je peux dire, je suis tout à fait convaincu que ce n'est pas ça. Je crois plutôt, et je mets tout le blâme sur moi, c'est qu'on vous a laissé une liberté fantastique. Dedans. Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit dans le monde où les enfants soient aussi libres. Et que, ma foi, eh bien, c'est difficile de savoir se servir d'une liberté comme ça. Pourtant, l'expérience valait d'être essayée. Vous ne l'appréciez pas parce que vous ne savez pas comment c'est quand c'est pas comme ça. Ça vous paraît tout à fait naturel. Mais il est très difficile de savoir organiser soi-même sa propre liberté. Pourtant, si vous arrivez à faire ça, à vous donner votre propre discipline, et pour des raisons supérieures, pas des raisons de passer ses examens, de se faire une carrière, ou de plaire à ses professeurs, ou d'avoir beaucoup de prix, ou toutes les raisons ordinaires que les enfants ont pour ne pas être grondés, pour ne pas être punis, pour tout ça. Nous supprimons toutes ces raisons-là. Eh bien, si vous arrivez à vous donner une discipline à vous-même. Chacun la sienne, il n'y a pas besoin de suivre celle des autres, chacun la sienne. Si vous arrivez à vous donner une discipline, simplement parce que vous voulez progresser et que vous voulez tirer de vous-même le meilleur que vous pouvez en tirer, alors, vous serez des êtres très supérieurs à ceux qui ont les disciplines ordinaires des écoles. C'est ça que je voulais essayer. Je ne dis pas, notez, je ne dis pas que j'ai échoué. J'ai encore très bon espoir que vous saurez profiter de cette occasion unique. Mais il y a tout de même quelque chose qu'il faut que vous trouviez. C'est la nécessité d'une discipline intérieure. Sans discipline, vous ne pouvez aller nulle part. Sans discipline, vous ne pouvez même pas vivre une vie normale d'homme normal. Mais au lieu d'avoir une discipline conventionnelle des sociétés ordinaires ou des institutions ordinaires, j'aurais voulu et je veux encore que vous ayez la discipline que vous vous donniez à vous-même par amour pour la perfection. Votre propre perfection, la perfection de votre être. Mais sans ça, Notez que si on discipline pas son corps, on ne pourrait même pas se tenir debout sur deux pattes. On resterait comme les enfants à se servir de quatre. Vous ne pourrez rien faire. Vous êtes obligé de vous discipliner. Ou vous, n'est-ce pas, vous ne pourriez pas vivre en société. Vous ne pourriez pas vivre de... excepté tout seul dans la forêt et encore, je ne sais même pas. Ça, c'est tout à fait indispensable. Je vous l'ai dit je ne sais combien de fois. Et ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que j'ai une aversion très marquée pour les disciplines conventionnelles, sociales, etc., que... Il faut vous abstenir de toute discipline. Je voudrais que chacun trouve la sienne dans la sincérité de son aspiration intérieure et la volonté de se réaliser lui-même. Et alors, le but de ceux qui savent, qu'ils soient professeurs ou instructeurs ou n'importe quoi. Dans ce cas-là, le but de ceux qui... la raison d'être de ceux qui savent est de vous renseigner, de vous aider. Quand vous êtes dans un cas qui vous paraît difficile, et vous soumettez votre problème, et avec leur expérience personnelle, ils peuvent vous dire, non, c'est comme ceci ou c'est comme cela, il faut faire ça, il faut essayer ceci. Alors, au lieu de vous faire absorber par force des théories et des principes et des soi-disant lois et une connaissance plus ou moins abstraite, il serait là pour vous donner un renseignement. Depuis les choses les plus matérielles jusqu'aux choses les plus spirituelles, chacun suivant son domaine et sa capacité. Il est de toute évidence que si vous êtes jeté dans le monde sans la moindre connaissance technique, vous pouvez faire des choses très dangereuses. Prenez un enfant qui ne sait rien, la première chose qu'il fera s'il a des allumettes, par exemple, c'est de se brûler. Eh bien, dans ce domaine-là, au point de vue purement matériel, il est bon qu'il y ait des gens qui sachent et qui peuvent vous renseigner, parce qu'autrement, si chacun doit apprendre par sa propre expérience, il mettrait plusieurs vies à savoir les choses les plus indispensables. C'est ça l'utilité, la vraie utilité des professeurs, des instructeurs. C'est qu'eux, ils ont appris, plus ou moins, pratiquement ou par une étude spéciale, et qui peuvent vous renseigner sur des choses qu'il faut savoir d'une façon indispensable. Ça vous fait gagner du temps, beaucoup de temps. Mais c'est ça leur utilité, de pouvoir répondre aux questions. Et au fond, il faudrait que vous ayez un cerveau assez vivant pour avoir des questions à poser. Remarquez que, n'est-ce pas, je ne sais pas, mais... Au fond, vous n'avez jamais rien à me demander, ou c'est extrêmement rare. Mais ça prouve une paresse d'esprit terrible. Qu'à certains moments, je vous dis, ne questionnez pas, tâchez de trouver par vous-même certaines choses intérieures, c'est entendu. Mais quand je suis ici et que je vous dis, n'avez-vous pas de questions à poser? Silence. Alors, ça prouve que vous n'avez pas de curiosité d'esprit. Je ne vous demande pas nécessairement de me poser des questions sur ce que je viens de lire, puisque après avoir épuisé ce sujet-là, je suis toujours prête à répondre à n'importe quelle question posée par n'importe qui. Eh bien, je dois dire que nous ne sommes pas très riches en questions. Je n'ai pas souvent l'occasion de vous dire quelque chose. Je m'empresse de vous dire que si vous me posez des questions techniques sur les sciences physiques, ou je pourrais très bien vous dire, je n'en sais rien. Étudiez vos livres ou demandez à votre professeur. Mais si vous me demandez des questions dans mon domaine, je vous répondrai toujours. Voilà. Alors, une dernière tentative. Est-ce que quelqu'un ici a une question à me poser? C'est un miracle. Eh bien, c'est tout.